Bienvenue à cette édition du 22 octobre 2020 des Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca, C-H-O-Q, votre émission d'actualité d'ici et d'ailleurs sur les enjeux touchant à l'immigration, à la paranoïa sécuritaire et au racisme. Marie-Ève, donc la portion féminine des Apatrides Anonymes à l'animation pour une deuxième fois consécutive, chers auditeurs, auditrices, en direct des studios de Choc. Je suis bien sûr en compagnie de mes deux comparses, Mathieu. Bonjour Mathieu.
Salut.
Et Simon à la console. Ben, il faut monter plus le micro, Simon.
Non.
Pas toujours pas. On te retrouvera tout à l'heure.
Est-ce qu'on m'entend?
Ben oui,
ouais.
Il faut ouvrir le micro.
Enfin, j'espère que vous avez apprécié autant que nous autres notre retour en studio il y a deux semaines, hein, de retrouver notre spontanéité, comme on le voit, et nos cabotinages légendaires.
Nos enfargeages.
Je sais pas si on va être toujours aussi tannant qu'on l'a été à la dernière émission. En tout cas, certains d'entre vous nous ont écrit pour nous dire qu'on avait été pas mal tannant.
Mm-hmm. Et toi, Maria, tu nous avais... désarçonné.
Bien sûr, oui, je suis une experte en désarçonnage. Bref, au programme aujourd'hui, Mathieu va nous faire encore une fois son tour d'horizon des actualités nationales, provinciales et locales, touchant particulièrement aux questions autochtones.
Oui, madame.
Simon, lui, va nous parler, entre autres, des formes contemporaines de l'esclavage. Et de mon côté, je vais ponctuer l'émission de brèves nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tout d'abord, je vais... commencer par une de ces brèves. Une petite nouvelle pour faire mentir les personnes qui disent que les déboulonnements de statut, c'est puéril et ça fait pas changer les choses parce que l'Université Queen's, qui est près de Kingston, en Ontario, a annoncé en début de semaine qu'elle allait retirer le nom Sir John A. Macdonald d'un de ses pavillons pour le rebaptiser éventuellement. L'université avait déjà annoncé au mois d'août la formation d'un comité chargé d'étudier la question. Le comité a fini par remettre un rapport de 65 pages pour justifier sa recommandation de changer le nom. Une pétition en ligne avait aussi été très populaire, là, une pétition qui demandait que le pavillon soit rebaptisé. Ça avait été très populaire, là, puis ça, une pétition qui précédait l'annonce de ce comité. Je cite ici un extrait du communiqué de la direction qui est comme un peu mi-figue, mi-raisin. L'avis de Sir John A. Macdonald est célébré à juste titre pour son rôle central dans la fondation du Canada moderne et la création de la Constitution de notre pays. Cependant, une compréhension plus complète de son héritage émerge ces dernières années. En particulier, nous avons maintenant une compréhension plus riche des opinions et des politiques blessantes que lui et son gouvernement ont avancées à l'égard des peuples autochtones et des minorités raciales. Écoutez, je ne sais pas si ça prend 65 pages pour sortir un communiqué aussi laconique, si on veut. Mais
ben, dans un langage un peu
quasiment administratif.
Administratif, oui. on peut déceler quelques éléments quand même là-dedans. Là. Ouais, une évolution.
Ouais.
Tranquille.
Déjà très, très, très tranquille.
Moi, j'ai hâte de lire le rapport sur le changement de nom de l'Université Queen's au complet.
Oui, ça serait pas pire. Ben, d'ailleurs, on se demande, là, il reste à voir si d'autres universités vont lui emboîter le pas aussi. Par exemple, bon, l'Université McGill, hein, dont un des campus porte le nom de son fondateur, parce que, bon, John A. Macdonald, c'est le fondateur de l'Université McGill. Il y a un processus, le processus qui visant à trouver le nouveau nom pour le pavillon va être commencé bientôt. En attendant, je prends l'initiative de vous inviter à nous envoyer vos idées de nouveaux noms pour le pavillon à notre adresse courriel apatridesanonymes@commercialresiste.ca ou encore via notre page Facebook.
Ben, je dirais, Maria, vu que Kingston, c'est une ville de police, de militaires, de prison.
C'est clair,
moi,
oui.
Je dirais le pavillon au pipi. C'est une ville très conservatrice, même si c'est une université, oui.
Bon, ben, peut-être que Simon va nous trouver une meilleure idée d'ici la fin de l'émission. Et, ben, je vous invite vraiment à nous les faire parvenir les vôtres.
Dérange-moi pas à la technique, s'il te plaît.
C'est bon. Sur ce, ben, on va aller rejoindre Simon, d'ailleurs, qui va changer de poste et qui va nous faire, croyez-le ou non, un tour du monde en 8 minutes. Alors, Simon, tu nous as préparé un florilège international.
Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oh. C'est, ou un bouquet, peut-être, de nouvelles internationales, si tu préfères. L'actualité est foisonnante. Je vais parler du Guatemala, d'Hawaï, des îles Canaries. C'est rare quand même. Si j'ai le temps, peut-être d'Afrique du Sud et de la Chine. Donc, on verra si je parle super vite ou si je parle plus lentement. Là. Ça dépend. Tu me calmeras. Si...
Oui, ou je t'interromperai pas trop.
Tant que tu veux. Je vais commencer avec le Brésil, par contre, avec Bolsonaro, qui a décidé, comme ça, dans un discours devant l'ONU, d'accuser les Autochtones d'allumer eux-mêmes les feux dévastateurs en Amazonie. Bref, de détruire leur propre milieu de vie. Alors que tout le monde sait que, ben, que c'est l'industrie agroalimentaire, principalement, qui s'approprie les terres par toutes sortes de moyens violents pour augmenter ses capacités d'élevage, ses capacités de production. Au Brésil, toujours, en Amazonie encore, dans l'État d'Amazonas, donc on se trompe pas, la construction d'une route clandestine qui va donner accès aux terres d'Apurina, donc qui menacent les territoires des peuples autochtones locaux. Imaginez une route clandestine en construction, c'est pas rien, c'est pas petit, on voit même ça de l'espace, là, en général, mais le gouvernement voit rien, ne fait rien. Toujours au Brésil.
Oui.
Les populations noires, les communautés noires du Brésil qui continuent de se mobiliser pour dénoncer le fait que les régions ou les quartiers où elles habitent sont complètement négligées par la santé publique locale en cette période de crise sanitaire. Donc, je pense que ça vous rappelle peut-être les États-Unis, la France ou le Canada aussi, oui. Peut-être. Maintenant, une nouvelle en provenance du Guatemala, on saute du coq à l'âne. Tantôt, j'ai un meilleur lien que ça entre deux pays, vous allez voir. Il y a une nouvelle caravane de 3000 personnes migrantes qui s'est mise en branle à partir du Honduras pour traverser l'Amérique centrale et le Mexique vers les États-Unis. Une fois arrivé à la frontière du Guatemala, le gouvernement guatémaltèque a décidé d'arrêter les 3000 personnes et de les refouler vers le pays d'où elles provenaient, donc le Honduras. De là où ils étaient partis, en prétextant la COVID et les mesures sanitaires pour refuser l'accès. Sauf qu'en même temps, le Guatemala annonçait la réouverture de ses frontières, autant terrestres, aériennes que navales, maritimes. Donc, chercher l'erreur.
Oui, c'est ça, on se demande à qui...
Il aurait dû peut-être, pas chronométrer, mais paramétrer leurs annonces, là, l'une avant l'autre et non l'une après l'autre ou en même temps.
Oui.
On se déplace à Hawaï. Donc, on voyage tour du monde en 8 minutes, t'avais
oui.
dit? Ça va être un vrai tour du monde. La construction, non pas d'une route à Hawaï, mais en plein site autochtone d'une grande importance culturelle, un méga télescope.
Ouais.
Le site, c'est pas une nouvelle histoire, on en a déjà entendu parler, mais il y a eu de l'évolution. Donc, c'est sur une montagne, un ancien volcan qui s'appelle Mauna Kea, un volcan considéré comme sacré par le peuple des Kanaka Maoli. Donc, ça fait des années qu'il y a une opposition au projet. Il y a régulièrement des routes qui mènent vers le site du futur télescope qui sont bloquées par les communautés locales. Le gouvernement canadien, via le Conseil national de recherche, est un des partenaires importants du projet de télescope. Projet qui, faut le mentionner, viole plusieurs articles de la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones, en particulier le droit à un consentement éclairé, libre et préalable. Donc, rien pour favoriser la réconciliation, tant à Hawaï qu'ici au Canada. Malgré tout, le site du Mauna Kea, donc le volcan en question, sur des terres volées à Hawaï, reste l'option privilégiée pour construire le super télescope. Pour l'instant, mais il y a un autre site qui est envisagé aux îles Canaries. Si jamais ça fonctionne pas, ben en tout cas c'était ça mon lien tantôt, tu sais, je vous disais que j'étais capable parce qu'on s'en, mm-hmm. je vais vous parler des îles Canaries maintenant, mm-hmm. donc admirez la magie de la radio. Les îles Canaries, donc cet archipel sous juridiction espagnole, pas très loin des côtes africaines, en face du Maroc et du Sahara occidental, ça agit un peu comme un avant-poste de l'Union européenne, un peu comme Gibraltar, un peu comme certaines îles grecques ou italiennes, ou comme les enclaves espagnoles qui sont sur le territoire marocain.
Ceuta Melilla, ouais.
Oui, c'est ça. Merci de rappeler le nom. On entend. C'est pas si connu que ça, non. Dans le fond. Hein. Donc là, on est quand même plus à l'est. On n'est pas en Méditerranée, on est carrément dans l'océan Atlantique. Les îles Canaries avaient des flux migratoires très importants dans les années 2000, avec un pic de plus de 30 000 personnes migrantes seulement en 2006. Puis il y a eu une série de mesures sécuritaires, des ententes avec des pays d'où provenaient beaucoup des personnes migrantes, comme le Sénégal ou la Mauritanie. Ça avait permis de faire baisser quand même pas mal le nombre d'arrivées de personnes migrantes aux îles Canaries. Et les routes migratoires, on le sait, ça évolue tout le temps au gré, oui, de ces ententes-là, des nouveaux dispositifs, des nouvelles mesures sécuritaires. Il y a un autre facteur que plusieurs observateurs jugent important dans le déplacement actuel des routes migratoires, c'est la réputation de la Libye, non pas au niveau international, mais au niveau même des gens qui aspirent des candidats à l'exil migratoire vers l'Europe. L'idée que la Libye est un endroit extrêmement dangereux où tu peux être vendu comme esclave, c'est répandu maintenant, donc... les gens désertent et trouvent d'autres moyens de se rendre en Europe. Donc, il y a une amorce de déplacement vers l'est de la Méditerranée, donc vers la Turquie, la Grèce, donc une reprise de ces routes migratoires-là. Et il y a une reprise vers l'ouest aussi, par le Maroc, par les îles Canaries, la Mauritanie, le Sénégal, etc.
Fait que les îles Canaries se trouvent à être comme un lieu de transit, dans le fond, vers
l'Europe. C'est le lieu espéré de transit, puisqu'on est en Union européenne, aux îles Canaries. Sauf que l'Espagne refoule énormément, en général, vers la Mauritanie, puisque c'est de là où ça embarquerait le plus actuellement. Faut dire, c'est une route qui est extrêmement dangereuse, parce que, on est dans l'océan, on n'est pas dans la Méditerranée, il y a des vagues, il y a des courants très forts, il y a une météo plus instable. Et un autre problème, c'est qu'actuellement, les fameux bateaux d'ONG qui viennent au secours des migrants sont en Méditerranée. Le phénomène étant relativement nouveau, en tout cas, il a déjà existé, mais qui est nouveau pour cette année. Il n'y a pas de secours, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de... Donc, finalement, il y a peut-être plein de morts et on ne le sait même pas, puisque c'est même pas rapporté. Donc, pour ceux qui réussissent à atteindre les îles Canaries, le gouvernement espagnol refoule beaucoup, mais fait très peu de transferts vers le continent. Donc, puis comme je te dis, il y a très peu de surveillance, il y a peu de bateaux de secours, mais il y a peu d'ONG sur les îles Canaries sur place. Et la capacité d'accueil actuellement de personnes migrantes aux îles Canaries, 89 places.
OK.
En 2020, on est rendu à 5000 arrivées. L'année n'est pas encore finie. C'est pas autant que l'Italie, qui est à peu près à 20 000 actuellement à la période.
Oui, sauf que les îles Canaries, c'est pas l'Italie non plus, là.
Non, il n'y a pas les capacités, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les infrastructures. Donc, à voir, à suivre dans les prochains mois. Est-ce que la pression migratoire va continuer sur les îles Canaries? On verra. J'imagine
que... Je pense que tu as le temps pour un autre petite nouvelle.
Parce que là, j'ai le choix entre Afrique du Sud ou Chine.
Écoute à ton choix.
On va garder la Chine parce qu'on est déjà en Afrique. Donc, on garde la Chine pour dans deux semaines. On va aller à l'extrémité sud du continent, donc en Afrique du Sud. On est à Pretoria, la capitale, où un groupe de personnes de la communauté ethno-culturelle Khoisan a marché plus de 1000 km pour aller camper devant le Parlement à Pretoria. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'ils sont là. Donc, ça, en soi, c'est pas nouveau. Mais j'en profite quand même pour vous parler un peu de la situation qui est pas ultra connue, là. Les Khoisan constituent l'une des plus anciennes communautés de ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud. On les trouve aussi dans les pays limitrophes que sont le Botswana et la Namibie. Mais ils sont surtout en Afrique du Sud et leur langue est toujours bien vivante, même si elle n'est pas reconnue comme une langue officielle en Afrique du Sud. À la défense de l'Afrique du Sud, contrairement à certaines colonies comme le Canada ou les États-Unis, en plus de l'anglais et de l'afrikaans, qui est aussi une langue européenne, on trouve 9 langues purement locales qui ont un statut de langue officielle, originale africaine, dont le Zoulou, qui est probablement la plus connue. Donc, une des revendications des militants Khoisan, c'est de faire ajouter leur langue comme 12e langue officielle en Afrique du Sud. Il y a d'autres revendications, supprimer du jargon administratif officiel le terme « colored », comme on voyait dans les États-Unis, ségrégationnistes.
Ouais, comme pour « colored people ».
C'est ça, c'est une genre de relique de l'apartheid, mais qui est encore dans les formulaires, dans la paperasse officielle. Mais la revendication, sûrement la plus fondamentale, c'est de réclamer des terres. Les Khoisan ont énormément souffert de la dépossession de leur territoire et on exige maintenant une forme de réparation via la restitution de certaines terres. Et sur cette revendication-là, les Khoisan sont alliés dans leur lutte à plusieurs autres communautés autochtones en Afrique du Sud. Donc c'est fou à quel point c'est les mêmes patterns partout dans les colonies. Un peu partout à travers le monde, la question des terres reste fondamentale. C'est souvent par là que la survivance ou que la culture peut survivre, finalement. T'sais. Et il y a tout le temps des entreprises extractivistes ou agricoles qui sont un peu mêlées à ça et qui ont des lobbies très puissants auprès des gouvernements locaux. Enfin, il semble avoir une petite porte, toute petite entrouverte vers la décolonisation. Ce sera à suivre, on verra. Dans le cas des Khoisan, après plus d'un an de campement devant le Parlement sud-africain, il ne s'est à peu près rien passé au niveau de leurs revendications. Mais les militants sont déterminés à continuer la lutte tant qu'ils n'auront pas obtenu des changements significatifs.
Eh bien, Simon...
Eh bien, c'est ça.
Tu as réussi ton exploit. Merci.
À vous faire voyager en moins de 8 minutes.
Oui, c'est ça. De mon côté, mais comme il y a un certain reconfinement qui a été décrété au début du mois, les événements militants et activités culturelles se font plutôt rares. Mais si vous avez envie d'en apprendre plus sur le Chili contemporain, il y aura une table ronde virtuelle le 28 octobre, donc mercredi prochain, à 17h, sur le plébiscite constitutionnel chilien. De quoi s'agit-il? C'est que ce dimanche-là qui vient, les Chiliens sont appelés à voter sur ce qui devrait entamer un processus participatif qui, lui, doit mener à une nouvelle constitution qui va remplacer celle de 1980 qui avait été imposée par la dictature et qui constitue la base légale, si on veut, là, du modèle néolibéral chilien. La population va devoir répondre à deux questions. Un, êtes-vous favorable à une nouvelle constitution? Deux, êtes-vous favorable soit à une convention mixte de 50% de personnes issues du Congrès et 50% d'élus, ou encore à une convention constituante, 100% de personnes élues et principe de parité homme-femme? Même si les sondages donnent gagnant là l'appui à une nouvelle constitution, le processus reste quand même incertain et va s'étaler sur plus d'un an. En effet, l'élection des membres de la convention auront lieu seulement en avril 2021 et le dernier plébiscite pour faire approuver la nouvelle constitution va avoir lieu environ 9 mois plus tard. Donc, les intervenants et intervenantes de la table ronde vont aborder toutes ces questions-là, mais aussi analyser le résultat du vote. Ça risque d'être assez intéressant. On a déjà mis le lien vers l'événement Facebook sur l'événement Facebook Live sur notre page Facebook. Avant d'aller retrouver Mathieu, on va donc aller en musique avec une pièce que je dédie à toutes les personnes blanches qui déchirent leur chemise dans les réseaux sociaux et les médias à propos de leur soi-disant droit fondamental de prononcer le mot en N. La pièce s'intitule « J'ai des opinions arrêtées sur des sujets que je ne maîtrise pas ». Et oui, vlant dans les dents. Et cette pièce est tirée du dernier album de la formation montréalaise « New Shoe », un Xème projet de Navet Confit. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca et vous écoutez les Apatrides Anonymes. Alors, Mathieu, je te cède le micro.
Ah oui, hein?
Yeah,
comme
oui.
Ça, là.
Oui.
OK, je vais parler des enjeux que tu attends, comme tu as dit au début.
Peux, de... Je peux prendre le micro, si tu veux.
Non, coupez-moi pas, là. Donc, j'ai... oui, je vais vous faire un suivi sur différents enjeux autochtones, lutte autochtone. J'en ai parlé à quelques reprises dans les derniers mois de ce qui se passait au niveau autochtone, mais c'est vraiment dans l'actualité ces temps-ci de plus en plus. On dirait qu'on a eu tous les enjeux, mais sans séparer, on parle des grands médias, évidemment, puis de des réseaux sociaux, mais on a eu beaucoup les enjeux du racisme antinoir cet été, de la brutalité policière. Là, la brutalité policière, ça touche aussi les Autochtones, mais là, c'est aussi d'autres enjeux territoriaux, etc., avec les gouvernements. Donc, je voulais juste revenir brièvement sur Joyce Echaquan. Juste souligner une lettre quand même assez intéressante qui est parue il y a à peu près une dizaine de jours, signée par 37 femmes autochtones, qui a été envoyée au premier ministre Legault. Tu sais, il y a eu beaucoup de manifs, il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de déclarations, mais une lettre comme ça aussi qui faisait un petit peu une synthèse aussi et qui était d'un point de vue de femmes autochtones, évidemment. 37 signataires pour les 37 ans de Joyce Echaquan, c'était ça le concept. Dont la, dans les signataires, il y a Elisapi, la chanteuse Inuk, la cinéaste Mohawk, Sonia Bonspiel-Boileau, Viviane Michel, de Femmes autochtones du Québec, évidemment, et c'est la productrice Ojibwe, Michel Rousseau, qui a un peu rassemblé les différentes femmes. Je vais vous lire des petits extraits, mais assez rapidement, parce qu'elle a déjà quand même beaucoup circulé. Je cite « Ne pas reconnaître la discrimination omniprésente dans toutes vos institutions », parce que c'est adressé à Legault, c'est lui donner le droit d'exister, et pire encore, c'est la perpétuer. On dit que c'est malheureux parce qu'il manipule l'opinion publique avec toutes ses... courbettes et ses sophismes, on pourrait dire, sur les définitions et sur les actions. Et on souligne que sa crainte, c'est peut-être qu'en reconnaissant le racisme systémique, ça veut dire que tout ça doit être vu, que ça va exiger des grands changements systémiques et de fond. Donc, vraiment, cet enjeu-là. Donc, en terminant, elles disent que c'est un appel aux Québécois et Québécoises en général de cesser la guerre des mots, mais pas pour ne pas reconnaître les choses, mais pour aller dans l'action et dire que c'est clair que le racisme systémique, c'est déjà réglé. On sait que ça existe et c'est présent depuis longtemps. Donc, je trouve ça intéressant quand même.
Ça voudrait dire qu'il s'est trompé depuis le début de son mandat aussi?
Oui, oui. Puis même quand il était dans l'opposition, tout à fait aussi. Ouais.
Ben depuis sa naissance.
Depuis sa naissance. Oui, le député de Repentigny, ça fait dur. Sinon, la semaine passée, il y a eu un événement quand même particulier. Ben, c'était une grande rencontre à Ottawa sur... qui a réuni 350 personnes pour discuter de la façon de lutter contre le racisme dans le système de santé suite toujours à la mort de Mme Echaquan, organisée par le fédéral. Donc, un pied de nez aux provinces, il y a des gagames là-dessus, on n'est pas dupes, c'est sûr. Mais la parole était donnée vraiment aux professionnels de la santé autochtones, donc médecins, infirmières, TS, qui venaient raconter leur histoire de racisme systémique dans leur travail, dans leur vie. Mais le ministre Miller, des services aux Autochtones, était en feu quand même. Il a fait des déclarations qui ont été reprochées par beaucoup de gens aussi plus à droite, disons. Il a dit que Joyce devrait être en vie aujourd'hui, mais elle n'est pas morte pour rien. Il a quand même dit ça comme ça. Sinon, une autre déclaration qu'il a dit aussi, les systèmes de santé partout au pays avaient laissé tomber et abandonné Joyce Echaquan comme tous les Autochtones. Donc, je ne sais pas s'il va s'en mordre les doigts après parce qu'il s'est trop avancé, mais enfin, c'était quand même particulier, je voulais le souligner. La ministre fédérale de la Santé, Patty Adjou, a invité les professionnels de la santé, mais aussi les provinces et les territoires, ainsi que les Autochtones, à se revoir en janvier. D'ici janvier, il y aura un plan d'action avec des pistes de solutions pour enrayer le racisme systémique dans les systèmes de santé au Canada. Ottawa veut mettre l'accent notamment sur la responsabilité des ordres professionnels dans le combat contre le racisme. Et il y a eu quelques solutions avancées par des gens présents, entre autres l'Assemblée des Premières Nations du Québec Labrador parle de mettre sur pied un ombudsman indépendant qui surveillerait à l'échelle du pays la situation dans les réseaux de la santé et qui prendrait les plaintes afin que les membres des communautés autochtones puissent se sentir confortables à le faire. Il y a aussi la notion de sécurité culturelle dont on parle de plus en plus, qui a été repris par les Atikamekw du Québec qui parlent du principe de Joyce. C'est-à-dire qu'ils veulent créer une espèce de protocole qui permettrait aux Autochtones d'aller dans les services publics en étant confortables au niveau culturel, au niveau social, au niveau économique. Ils vont faire des consultations dans les prochaines semaines pour définir ce principe de Joyce qu'ont appelé les Atikamekw. Fait qu'ils l'ont présenté à cette conférence-là, entre autres, mais on l'a vu aussi dans les médias. Sinon, sur ce sujet, pour terminer cette première partie, un billet de l'IRIS du 14 octobre sous la signature de Anne Plaude que j'ai trouvé intéressant, qui s'appelle « Les solutions systémiques au racisme systémique en santé et services sociaux », qui part qui parle de Legault, que pour Legault, cela reviendrait, s'il reconnaissait le racisme systémique, à reconnaître que des solutions au racisme ne se limitent pas à pointer du doigt certaines personnes, coupables, mais que les solutions doivent être systémiques. C'est un peu ce que la lettre des femmes aussi reprenait tantôt. Elle rappelle, Anne Plourde, que 50% des Québécois, selon les derniers sondages, croient qu'il existe du racisme systémique au Québec, mais que 70% pensent que les Premières Nations ne sont pas traitées sur le même pied d'égalité que les non-autochtones dans les structures sociales, dont le réseau de la santé. Donc, ça donne un peu des chiffres. Trois solutions qu'elle avance, Mme Plourde. La première solution, c'est que l'ensemble des travailleurs et travailleuses du réseau de la santé et des services sociaux soient tenus dessus une formation sur la culture autochtone. Ça a été proposé même par la CAQ. Mais le deuxième point qui vient avec ça, c'est que le gouvernement débloque des ressources financières substantielles afin que les communautés autochtones aient les moyens de participer activement à son élaboration et à sa dispensation de cette formation-là, que ce soit pas un truc de fonctionnaire du ministère de la Santé ou du ministère de l'Éducation. Deuxième solution, que les conceptions autochtones de la santé dans une perspective qui sont basées sur une perspective holistique, soient utilisées pour agir sur les déterminants sociaux de la santé qui jouent le rôle le plus important dans l'état de santé de la population, qui est reconnu de plus en plus même au niveau scientifique, académique, officiel. Et sinon aussi, la reprise de pouvoir des communautés autochtones sur leurs services. On donne l'exemple des services de protection à l'enfance qui ont été... il y a eu une réforme il n'y a pas longtemps. Il y a des communautés qui ont repris leurs services, dont les Atikameks au Québec. Et je ne savais pas, mais ça a été cité en exemple par la Commission Laurent comme un exemple à suivre, comment les Atikameks ont réorganisé leurs services de protection à l'enfance. Donc, Mme Plourde fait le lien avec le réseau de la santé en disant qu'une telle réforme pourrait aussi bénéficier à l'ensemble de la population du Québec si les réseaux étaient plus locaux et plus repris par la population. Je la cite. « S'il est une chose que la pandémie nous a appris, c'est que nous aurions tous et tous bien besoin de reprendre le contrôle sur nos services et de revenir à des établissements à échelle humaine, ancrés démocratiquement dans les communautés et orientés vers nos besoins réels plutôt que vers des impératifs d'efficience et de réduction des coûts définis par des gestionnaires déconnectés du terrain. » Ça reprend le discours contre la réforme Barrette, entre autres, là-dessus. Et dernière solution, je termine là-dessus pour la première partie. Offrir aux communautés autochtones des formations bien rémunérées assorties d'une garantie d'embauche dans le secteur de la santé et des services sociaux, un peu à l'image du fameux programme d'embauche massive des préposés qu'on a pu débloquer comme ça en quelques mois. Mais pourquoi on le ferait pas pour les communautés autochtones, pour qu'ils puissent investir le réseau de la santé ou avoir leurs propres ressources, leur propre système financé. Donc, c'est des propositions comme ça sur le racisme systémique en santé. Donc, je vous reviens dans quelques instants avec ce qui se passe en Nouvelle-Écosse, entre autres.
Oui, quelques petites notes pour laisser Mathieu reprendre son souffle. Moi, Mathieu, mais non. Alors, t'as pu te reprendre ton souffle?
Me moucher dans les rideaux, merci.
C'était pas nécessaire, ça.
Non, surtout pas en cette
période. C'est pas très COVID-proof, ça.
Donc, je vous parlerai pas en détail de ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse.
Couvert mur à mur, là, si on veut.
Quand j'en ai parlé il y a deux semaines ou quatre semaines, c'était pas beaucoup dans les médias, mais là, ça m'a fait les manchettes, les premiers titres. Ouais. Mais je vais parler plus des enjeux de fond, quand même, qu'on a moins parlé. Donc, Nouvelle-Écosse, les pêcheurs Mi'kmaq, évidemment. Ça rappelle à beaucoup de gens ce qui s'est passé en 1999 à Burn Church, dans la baie de Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Un même genre de conflit avec les Mi'kmaq et les pêcheurs blancs ou commerciaux ou non-autochtones. J'ai choisi deux articles que je trouvais intéressants, qui étaient un peu plus... qui parlaient d'autres choses. Le premier, je vais vous citer la première phrase. « Tandis que les fédérales montrent du doigt l'inaction de la police face aux actes d'intimidation et de violence de certains pêcheurs non-autochtones à l'égard des pêcheurs Mi'kmaq, des spécialistes en droit et en politique et toutes sortes d'intervenants mettent en cause la propension d'Ottawa à laisser traîner les choses lorsqu'il est question des revendications des Premières Nations. » Ça donne un peu le ton. On parle ici, évidemment, de la saison de pêche de la Première Nation de Sipikné-Katik, qui a commencé le 17 septembre. Et qu'est-ce que c'est le 17 septembre? Ben, c'est la date de l'arrêt Marshall de la Cour suprême en 1999. C'est vraiment le 17 septembre 1999 que l'arrêt Marshall a été prononcé par la Cour suprême, qui reconnaissait le droit des Autochtones à pratiquer une pêche de subsistance convenable, sans égard à la saison de pêche réglementée par Pêche et Océan Canada. Donc, ils ont pris cette date-là, les Autochtones de la Nouvelle-Écosse, symbolique dans leur cas. La Première Nation, donc, et le fédéral négocier un terrain d'entente, avaient eu des discussions et qui ont achoppé dans les derniers mois, donc sur c'est quoi exactement la fameuse pêche de subsistance convenable. En conséquence, les pêcheurs Mi'kmaq se sont auto-réglementés, notamment en délivrant des permis et en établissant des critères de conservation. Donc, ont commencé leur pêche le 17 septembre. Ça, on ne savait pas beaucoup l'avant, qu'est-ce qui s'était passé. La difficulté qu'éprouve le gouvernement à trouver des solutions en collaboration avec les Premières Nations démontre que 21 ans après l'adoption de l'arrêt, la situation n'est toujours pas réglée. On a compris ça. Peut-être vous rappeler que l'histoire, c'est Donald Marshall Jr. qui est accusé d'avoir pêché des anguilles en dehors de la saison réglementée par le ministère, mais qui était en droit de pêcher afin d'assurer un moyen de subsistance convenable en vertu des traités de paix et d'amitié adoptés dans les années 1760. Ça, c'est l'arrêt, donc la cause en 99. À la suite de ces décisions, les pêcheurs Mi'kmaq des provinces de l'Atlantique qui ont choisi de lancer leur saison de pêche sans respecter les dates imposées par le ministère se sont heurtés à une farouche opposition, que ce soit à Burnshire en 99 ou il y a quelques semaines en Nouvelle-Écosse, bien actuellement. Faut peut-être préciser aussi que la Cour suprême, quelques années plus tard, a dû clarifier sa décision dans un second texte. On n'a pas entendu parler non plus. Et elle a précisé que le ministère fédéral pouvait réglementer la pêche du Mi'kmaq seulement à des fins de conservation des ressources, à condition de consulter les Premières Nations et de pouvoir justifier les dix règlements. Donc ça, c'est un peu au niveau légal puis au niveau de la Cour. Et évidemment, ce que beaucoup de gens notent, c'est qu'au lieu de penser à une stratégie globale et pérenne, le fédéral a pris l'habitude d'intervenir seulement lorsque la tension atteint des sommets, comme actuellement. Encore une fois, c'est la faillite du gouvernement d'agir de manière à prévenir ce genre d'explosion. C'est toujours à la pièce au moment d'une crise. Et donc, bien sûr, c'est un terreau fertile pour la violence et le racisme. Et on sait qu'en Nouvelle-Écosse et partout au Canada dans les dernières semaines, vous avez lu les trucs sur les commentaires sur les Mi'kmaq et sur les pêcheurs Mi'kmaq. C'est pas joli, évidemment. La ministre des Pêches, Bernadette Jordan, qui est de Nouvelle-Écosse, a fait savoir qu'elle travaillait à la mise en œuvre d'un plan général pour assurer le respect des droits garantis par la Cour suprême à l'ensemble des Autochtones. Beau projet pour les prochains mois pour un gouvernement minoritaire.
Oui, il y avait juste 20, ça fait juste 21 ans qu'ils sont supposés avoir comme...
Réglé tout ça.
C'est ça, tu sais. Puis là, encadré, tout d'un coup, elle décide que...
Oui, tous les enjeux vont être réglés.
Oui.
Beaucoup font... prennent la comparaison de la paix des braves conclue en 2002 entre Québec et les Cris-la-Baie-James, qui pourrait être un genre de modèle pour ce genre d'entente-là. L'autre texte que je voulais vous parler, ça s'appelle, allez le lire, c'est vraiment intéressant, Pêche de subsistance, 34 bonnes raisons d'engager le dialogue de nation en nation. C'est sur le site Espace autochtone de Radio-Canada. Et là, il y a un rappel historique qui est vraiment intéressant. On dit que les communautés des nations Mi'kmaq, Wolastoqué et Passamaquoddy sont bénéficiaires des traités de paix et d'amitié signés par les représentants de leur nation et la couronne britannique au 18e siècle. Regardez ça, c'est intéressant. Par ces ententes signées de nation en nation, les Autochtones de l'Est du pays s'engageaient à ne plus attaquer les possessions anglaises et les sujets de Sa Majesté. En échange, la couronne britannique s'engageait à laisser les premiers habitants du pays vaquer paisiblement à leurs activités traditionnelles sur leur territoire. Parmi ces activités se trouvait aussi le droit de troquer les produits de leurs activités, tels que poissons, viande, fourrure et plumes, pour se procurer des biens. Aujourd'hui, cette pratique du troc a évolué en notion de commerce et au lieu d'obtenir des miroirs en échange des produits, c'est un peu cliché, il est légitime de s'attendre à recevoir de l'argent. C'est une évolution naturelle de la pratique reconnue par le droit canadien. Donc, c'est un peu ça, l'historique.
Ouais.
Et on dit partout que les chiffres parlent d'eux-mêmes. La pêche autochtone représente une goutte d'eau dans l'océan à côté des volumes commerciaux.
Mais c'est ça,
Autant ce qui est arrivé en 99 à Burnshire que maintenant, c'est vraiment pour leur subsistance. Un peu de vente, parce que la subsistance, c'est aussi de faire un peu de commerce pour avoir des sous pour la communauté. Mais on parle vraiment c'est minime, là. C'est vraiment minime par rapport aux gros bateaux, même les Français qui viennent, les autres pays qui viennent pêcher près du Canada. Certaines communautés ont choisi d'intégrer l'industrie canadienne des pêches à la suite de l'arrêt Marshall, lorsque le Canada a mis en place un plan d'action pour tenter d'uniformiser la mise en œuvre des droits de pêche autochtones. Certaines communautés ont donc conclu des ententes avec le ministère et obtenu des permis de pêche commerciaux. Ça, il y en a qui l'ont fait. D'autres n'ont pas pris cette route et ont souhaité se doter elles-mêmes de leurs propres encadrements en matière de pêche, en se basant sur le droit de commercer issu des traités pour s'assurer une subsistance. Or, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de décisions, de choix qui relèvent de leur droit de gouvernance. Donc, ils ont le choix suite au jugement Marshall. Les revenus générés par la pêche sont limités par les normes de pratique décidées par les communautés, mais aussi par les limites floues du concept qui doit être négocié avec le fédéral. Mais une chose est certaine, cela va au-delà du strict minimum, au-delà du droit de pêcher pour seulement pouvoir manger. Donc, on peut aussi en faire un peu de commerce.
Ouais.
Combien de communautés ont le droit de commercer les produits de la pêche pour s'assurer d'une subsistance convenable dans l'Atlantique? 34 communautés qui, et il y en a 3 qui ont des ententes avec le fédéral, actuellement. Okay, ouais. Fait qu'on voit un peu la chose. Peut-être vous dire, en terminant là-dessus, que d'autres communautés ont souhaité, souhaitent faire la même chose, c'est-à-dire s'auto-gérer leur propre pêche. Donc, ça va continuer. Peu importe les critiques des pêcheurs commerciaux. Hier, la communauté dont je vous parlais au début du micro a eu une injonction de la Cour. C'est comique parce que les injonctions servent souvent contre les Autochtones, mais dans ce cas-ci, c'est eux qui s'en servent. Puis bon, c'est sûr qu'ils se faisaient attaquer, ils se faisaient tout détruire par les donc les gens de Sipiknik-Katsik qui ont une injonction hier qui leur permet d'accéder aux quais, aux usines et aux entrepôts. Et peut-être aussi vous dire, je vais finir là-dessus, en parallèle, hier, on a su que la GRC a dilapidé 13 millions de dollars donc en un an. Pour occuper et surveiller les terres des Wet'suwet'en.
Ah, ben oui.
Hein? Un an quand même, 13 millions. Et plusieurs Autochtones de l'Est ont dit, bah, c'est le fun qu'ils surveillent nos camarades de l'autre bout du pays à coût de 13 millions. Mais ici, on demande à un policier pas besoin de taper dessus et brûler nos autos et il n'y a personne qui vient nous aider.
Fait qu'on voit vraiment. Comme c'est étrange.
Racisme systémique, deux poids, deux mesures. Écoute, je sais pas.
Ben non, puis là,
trop.
On sait pas trop. Oui, Simon?
Non, mais s'il y a des problèmes d'eau potable dans certaines réserves, je sais pas si un 13 millions pourrait peut-être aider une communauté?
Peut-être.
Non, mais appliquer une injonction pour un gazoduc, c'est important, là.
Ben, avec tout ça, on pouvait évidemment pas passer sous l'anse aussi quand même la nomination de Yann Lafrenière hein, comme ministre des Affaires autochtones.
Parle-moi pas.
Qui va surtout... évidemment, la nomination d'un ancien flic à la tête de ce ministère dans le contexte actuel... a de quoi faire, disons, sourciller, d'autant que lorsqu'il était porte-parole du SPVM, il niait même l'existence du profilage racial là, au sein des forces de l'ordre. Mm-hmm. Donc,
on s'en rappelle.
Donc, c'est pas vraiment une surprise qu'il nie aujourd'hui l'existence du racisme systémique, préférant parler plutôt de responsabilité individuelle, évidemment. Mais bon, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Mais d'ailleurs, M. Lafrenière est pas particulièrement reconnu hein, pour son sens de l'autodérision. Je fais un petit retour en arrière. En 2013, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une jeune femme qui avait été arrêtée pour avoir diffusé en ligne une photo prise avec son cellulaire d'un graffiti représentant le dit M. Lafrenière avec une balle dans la tête. La jeune femme a été...
Attention à ce que tu dis. Là.
La jeune femme a été reconnue coupable de harcèlement criminel. Donc, quand Yann Lafrenière dit qu'il faut pas s'enfarger dans de la sémantique et que peu importe, ce qui importe, ce sont les actions concrètes, on se demande un peu ce qu'il a en tête exactement. Et en plus, lors de son témoignage au procès, Lafrenière avait dit que l'image l'avait ébranlée, avait effrayé ses enfants et avait forcé sa conjointe à délaisser son emploi durant plusieurs mois. On espère que le pauvre Yann s'en est remis depuis et qu'il s'est forgé une carapace parce que son obstination à ne pas reconnaître le racisme systémique risque fort de ne pas lui attirer seulement des amis dans son nouveau rôle.
C'était une œuvre d'art quand même, hein, c'est ça.
Oui, c'était un graffiti.
Artistique.
On apprenait aussi au début du mois que le SPVM est le service de police au pays qui a contacté le plus de fois l'Agence des services frontaliers, c'est-à-dire plus de 3500 fois en 2019. Ça, là, ça veut dire 10 fois par jour en moyenne. Et oh, surprise, la police de Montréal est incapable d'expliquer pourquoi ses agents contactent la SFC autant de fois. À titre comparatif, là, pour la ville de Vancouver, là, c'est 460 appels par année de la part des flics à l'Agence des services frontaliers. Bref, là, le SPVM a décidé que les policiers sur le terrain pourront plus appeler directement l'agence fédérale. Ils vont devoir passer par une personne au SPVM qui, elle, sera chargée de faire les vérifications. Mais quand même, ça fait longtemps que les groupes de défense des personnes migrantes comme Solidarité sans frontières disent que c'est pas le rôle hein, de la police municipale de faire appliquer... la loi sur l'immigration et cette collaboration-là entre les forces de l'ordre et l'Agence des services frontaliers devrait être stoppée parce que les risques sont énormes pour les personnes sans papier d'interagir avec un policier. Dans la vie de tous les jours, elles savent qu'il y a un risque de détention ou un risque de déportation quand elles se rendent au travail, amènent leurs enfants à l'école, vont faire leurs courses. Donc, les gens ont peur et se font de plus en plus invisibles possible. Et la Ville de Montréal réfléchit à la création d'une carte d'identité municipale pour rendre accessibles les services policiers aux personnes sans papier. Elle pense, entre autres, là, au modèle de New York, où il y a une carte universelle pour l'ensemble des habitants-habitantes, puis ce qui devient comme une façon de s'identifier officiellement, ce qui fait en sorte qu'un policier aurait pas à remettre en question le statut migratoire d'une personne ou et donc ne poserait pas cette question-là et on n'appellerait pas l'Agence des services frontaliers. Mais non, 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 il n'y en a pas de profilage racial au SPVM.
Vive les cartes.
Là-dessus, on s'en va en musique avec la chanteuse britannique d'origine caribéenne Alani, avec la pièce Lament for Emmett Till. Emmett Till, qui c'est? En fait, c'était un jeune Afro-Américain qui a été torturé à mort par deux adolescents blancs en 1955. Une tragédie qui a été un peu à l'origine là, du mouvement américain pour les droits civiques. À l'époque, les deux suspects, Roy Bryant et son demi-frère, avaient été acquittés par un jury composé de 12 hommes blancs. Ils avoueront plus tard être à l'origine.
Il aurait pu mettre des femmes quand même.
ils avoueront plus tard être à l'origine de l'assassinat brutal du jeune homme. Et donc la pièce Lament for Emmett Till a été lancée cet été à l'occasion du 65e anniversaire de la mort du jeune homme. Alors on écoute Alani.
Mother, mother, you who bore a son of sorrow, know white was just as sure will reap more than it can ever sow. Cry, cry, Lynch, raise your murder, murder, seal the land in more than angry band. Uncle, uncle, he who stood facing Lynch's eyes, a firm hand in Jim Crow's dock of wood, beating parading child. Cry, cry, Lynch, raise your fist. Murder, murder, seal the land in more than angry bands. Tears, blood, and pain should mix like rain. Sorrow comes again. If I am there at heaven's gates, will I be free? Swore vengeance for this brutal hour. Make your unity so above strife to avenge this young man's life. Cry, cry, Lynch, raise your fist. Seal the land in more than angry bands.
Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. C'est difficile de parler fort après une pièce d'une telle douceur. Alors Simon, tu nous parles d'esclavage moderne.
Oui, deux dossiers qui illustrent bien l'esclavage moderne. Là. Effectivement, je pense que c'est toi qui avais choisi le nom pour ce segment-là. Donc, dans 2-3 minutes, je vais vous parler d'un genre de système d'exploitation, un peu comme ce qu'on trouve au Canada pour les aides domestiques philippines, mais ouais. Au Liban, le kafala, ça s'appelle. Mais je vais commencer à vous parler de l'industrie de l'huile de palme. Donc, on s'en va en Asie du Sud-Est principalement. L'huile de palme est produite dans plusieurs régions du monde, comme en Amérique latine, en Afrique, mais l'essentiel de l'huile de palme est produite en Asie du Sud-Est. Je pense que c'est à peu près comme 90% qui est produite dans certains pays comme la Malaisie et l'Indonésie surtout. Il y a eu une enquête de l'Associated Press qui a décidé de se pencher sur les conditions de travail extrêmement difficiles, les abus, le recrutement. Bref, vous allez comprendre pourquoi on a appelé ça l'esclavage moderne. Bon, tout le monde a déjà entendu parler des impacts environnementaux de l'industrie de l'huile de palme, donc c'est pas là-dessus que je vais m'attarder aujourd'hui. L'huile de palme, peut-être juste pour mettre en contexte, c'est vraiment partout dans l'alimentation, les médicaments, les produits de rénovation, d'entretien, les pesticides, name it, c'est vraiment partout. La production a été multipliée par 15 depuis 20 ans. Et cette croissance-là, ben, qui se poursuit, vous le devinez, ça nécessite constamment de la nouvelle main-d'œuvre à bas prix. Et comme c'est très difficile comme condition, ben, les gens sont rapidement épuisés ou morts ou blessés. Donc, il faut tout le temps renouveler la main-d'œuvre. Ça prend beaucoup de monde pour alimenter cette industrie-là. Ça implique des très gros joueurs, JP Morgan, la Deutsche Bank, Vanguard Group, Unilever, L'Oréal, Nestlé, etc. Eux, évidemment, engrangent des milliards sans jamais être directement impliqués sur le terrain où on retrouve des petites banques locales, malaisiennes par exemple, des petits exploitants, producteurs, transformateurs, transporteurs, etc. Et encore des maudites agences de placement qui sont partout. C'est vraiment comme...
Mais il va falloir faire un dossier complet à un moment donné sur ces maudites agences de placement, mais c'est vraiment des vautours. Puis,
moi, je les vois un peu comme le WD-40 qui permet d'huiler la machine puis qu'on trouve vraiment à tous les engrenages. Ouais. Donc, puis sans eux, tout s'effondre. Puis elles sont toujours là, dans tous les secteurs, à tous les niveaux, vraiment à traquer les populations les plus vulnérables. Donc, quand les journalistes questionnent les porte-paroles, par exemple, de la Deutsche Bank ou de L'Oréal Paris, sur des situations d'esclavage, carrément, ben c'est toujours super facile pour eux de répondre, ben nous, dans la chaîne de montage, on est juste au niveau du financement ou de la mise en marché ou de la conception des produits. Tourner la page et que oui, ils sont toujours ils se disent sensibles au respect des droits humains, que leurs standards là-dessus sont très élevés, qu'ils n'hésiteront pas à sanctionner tel petit producteur local, la cassette habituelle, mais ça prend toujours des cas précis très médiatisés pour que ces gros joueurs-là interviennent. En tout cas, vous savez comment ça marche, la même chose dans plein d'industries. Ouais. On pense aux vêtements, dans le textile ou dans l'électronique, entre autres. Donc, l'enquête de l'Associated Press repose sur des entrevues auprès de 130 personnes qui ont travaillé dans l'industrie de l'huile de palme en Malaisie et en Indonésie. Il y en a beaucoup qui ont témoigné avoir été menacés, retenus contre leur gré avec passeport confisqué, forcés de travailler pour rembourser des dettes allant jusqu'à 5 000 $ US, un montant énorme dans la région, un montant qu'on leur demandait pour leur octroyer un emploi. Donc, paye-moi pour avoir une job, puis je vais te payer moins que ça après, et tu vas devoir me rembourser avec intérêt. Sans compter les témoignages de travailleurs, travailleuses qui disent avoir été battus ou violés. Je parlais des agences de placement tantôt. Donc, non seulement elles prennent une cote souvent généreuse sur les salaires, mais aussi elles utilisent bon, toutes sortes de stratagèmes pour recruter avec la complicité de responsables locaux, de mafias, de la police, pour piéger des gens qui souvent ne parlent même pas la langue locale. On pense à des réfugiés Rohingya qui ont fui le génocide au Myanmar. Il y en a beaucoup qui travaillent dans l'industrie de l'huile de palme en Indonésie et en Malaisie. On donne aussi comme exemple des pêcheurs qui étaient esclaves sur des bateaux depuis des années puis qui aboutissent sur des plantations. Les journalistes qui enquêtaient ont aussi rencontré des migrants sans papier et leurs enfants qui travaillaient sur des plantations, des femmes qui travaillaient pour moins de 2 $ de l'heure, parfois pour rien du tout, seulement en échange d'hébergement et de repas. On parle aussi des banques locales complices de ce grand système d'exploitation. Parfois, elles gèrent les systèmes de paye des employés / esclaves en imposant elles aussi, en plus de la cote que les agences de placement prennent, les banques imposent aussi une cote sous forme de déduction salariale, souvent arbitraire, toujours abusive, généralement sans explication. Donc, on va vous prendre un petit 10% là, un petit 12% là. Question de rançon encore plus ironique. Beaucoup d'abus documentés ont été constatés des plantations qui sont certifiés par un organisme jugé crédible dans l'industrie, je vais y aller avec mon anglais, la Roundtable on Sustainable Palm Oil, ou RSPO, en français table ronde pour de l'huile de palme durable. C'est un organisme, comme je disais, qui est respecté, qui en principe veille au respect des conditions de travail et des normes environnementales. Alors, des entreprises qui se disent responsables et qui arborent fièrement le logo, la certification de la RSPO sont directement complices non seulement de tous les abus dont je parlais, mais aussi du vol de terres autochtones et de la destruction d'habitats naturels, d'espèces animales menacées comme les orangs-outans. Donc, si vous voyez ce logo-là, la RSPO, ben, je me fierais peut-être pas trop
à ça
sur les tablettes de nos détaillants ici au Québec. Je vous parle du Liban dans deux semaines, donc je garde Liban, Chine en banque, donc je suis déjà, je suis prêt.
T'es sûr, t'as pas besoin de faire ta recherche, sinon.
Parfait.
Mais je vous ramène un peu quand même à une bonne nouvelle, entre guillemets, ici. Bon, par les temps qui courent, mettons qu'on prend les bonnes nouvelles qu'on peut. Le gouvernement de l'Ontario a annoncé la semaine passée une entente avec le gouvernement fédéral qui devrait permettre d'injecter 11,6 millions de dollars supplémentaires dans la protection de la main-d'œuvre agricole de la province. On vous en a parlé plusieurs fois là, à l'émission. Les travailleurs migrants agricoles ont été particulièrement touchés par la COVID-19, principalement parce que plusieurs employeurs fournissent pas l'équipement de protection individuelle, mais aussi à cause de l'aménagement des lieux de travail et de vie qui permet pas de respecter la distance physique. Certaines fermes comme Nature Fresh ont été l'épicentre d'éclosion de plusieurs centaines de cas de COVID. 3 travailleurs étrangers sont morts de la COVID-19 en Ontario. Bref, ce programme-là s'ajoute aux 15 millions de dollars qui avaient déjà été annoncés par le gouvernement de l'Ontario cet été. Principalement pour installer des barrières physiques entre les travailleurs. Bref, assurer une meilleure protection. Au ministère de l'Agriculture, on dit que la bonification va permettre de doubler le budget de la aide accordée aux agriculteurs, qui passe à un maximum de 15 000 $ par entreprise. Est-ce suffisant pour apporter les changements nécessaires aux installations? Ça reste à voir. Moi, j'y connais rien. Mais ce qui est clair, par exemple, c'est que ça règle quand même toujours pas le problème des conditions de travail des travailleurs migrants qui relèvent de l'exploitation pure et simple, des horaires de travail trop longues, parfois jusqu'à 18 heures par jour, vol de salaire, peu ou pas d'accès au téléphone, insalubrité des hébergements, manque de nourriture et j'en passe. Donc, on peut non seulement dire que la nouvelle aide est trop peu tôtant, mais aussi qu'elle risque de plus soutenir les propriétaires que les travailleurs eux-mêmes sans vraiment rien changer au fond du problème. Sinon, vous dire très rapidement que c'est demain que la Cour d'appel fédérale, donc demain vendredi 23 octobre, que la Cour fédérale va entendre les plaidoiries au sujet de la demande du gouvernement canadien de suspendre l'arrêt statuant que le Canada viole les droits des demandeurs d'asile qui renvoient aux États-Unis en vertu de l'entente des tiers pays sûrs. Si la Cour rejette l'appel du gouvernement fédéral, l'entente sur les tiers pays sûrs sera suspendue jusqu'en janvier, à partir de janvier 2021. On reviendra sûrement dans 2 semaines sur le jugement pour vous en faire le compte-rendu. Et oui, l'émission tire à sa fin. Alors, on vous rappelle que si vous nous écoutez en direct, vous pouvez aussi le faire en balado ou en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet www.apatridesanonymes.info. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et nous écrire à apatridesanonymes@resist.ca. Par exemple, pour nous envoyer vos suggestions de noms pour le pavillon de Sir John A. Macdonald de l'Université Queen's. J'en profite.
Le pavillon Ronald McDonald existe déjà.
Ouais, non, c'est ça.
C'est dommage.
J'en profite pour remercier mes collègues Simon et Mathieu pour leur excellent contenu, comme toujours.
Merci Marie-Ève. Hein?
Oui.
Il y avait du stock aujourd'hui. Hein?
Oui, il y avait du stock. Ça a été difficile de contrôler le temps.
Animation qui va rentrer dans les annales.
Dans les annales. Je termine avec l'annonce d'une manifestation pour le définancement de la police et en solidarité avec les victimes de bavures policières. C'est ce samedi, le 24 octobre, à 13h au parc Wilfrid Laurier, qui est au coin de Laurier-Est et Christophe-Colomb, près du métro Laurier. C'est Il s'agit d'une manif familiale organisée par la Coalition pour le définancement de la police et justice pour les victimes de bavures policières. Sur ce, on va se laisser sur une pièce tirée de la compilation Montreal Dances Across Border, qui est parue en septembre et qui rassemble des artistes de la scène underground techno-électro de Montréal. Toutes les ventes de l'album sont remises à Solidarité sans frontières. Vous pouvez aller voir le Bandcamp Montreal Dances Across Border pour aller acheter l'album. C'est vous donner le montant que vous voulez. Alors, on écoute Tourment avec la pièce Zone Chaude. Bonne écoute et à dans deux semaines.
Merci.
Bonne soirée.